Shabbat Shalom. Ce Shabbat est appelé Shabbat Agadol. La Gemara Zaken explique dans son Shulchan Aruch la raison à cela. En fait, quand les Égyptiens ils ont vu les Juifs qui préparaient les animaux pour le Korban Pessah, ils ont demandé pour quelle raison ils agissaient ainsi. Et les Juifs ont répondu et ont raconté aux Égyptiens ce qui allait se passer, qu'il y allait avoir une plaie contre les premiers-nés, parce que Pharaon refusait de les laisser sortir d'Égypte. À ce moment-là, quand ils ont su ça, quand ils ont su que leur vie était en danger, ils sont allés voir Pharaon, et ils ont demandé à Pharaon de libérer les Juifs d'Égypte. Quand Pharaon a refusé encore une fois, alors il y a une guerre qui a éclaté au sein même des Égyptiens, et il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens qui avaient fait souffrir les Juifs qui ont été tués à ce moment-là. Donc on voit que les Égyptiens eux-mêmes, sans même que les Juifs aient besoin d'entreprendre une guerre contre eux, se sont massacrés les uns les autres. Donc, en ce sens-là, on appelle ça un miracle, parce qu'on voit que un Juif, il gagne parfois la guerre sans même avoir besoin de se battre. Donc ce sujet, il est longuement expliqué dans la Chassidout, en particulier quand on parle de Yutet Kislev, le moment où la Gemara Zaken a été libérée de prison, et qui déclare « Pada v'shalom nafshi », quand il dit ce verset des Tehillim, « Tu as libéré mon âme dans la paix », tu l'as libéré dans la paix, justement, dans la paix, c'est-à-dire sans que j'ai besoin de faire la guerre. De quel moment il s'agit? C'est quand un Juif, il libère la force de l'essence de son âme, à ce moment-là, elle va illuminer toutes les forces de son âme, au point qu'elle va transformer l'âme animale en une âme de sainteté. Elle va transformer l'obscurité en lumière, sans même qu'un Juif ait besoin de se battre contre son mauvais penchant, comme c'est le cas, comme on l'étudie dans le Tanya par exemple, comme Benoni tout au long de sa vie, il doit lutter, il doit expliquer à son âme animale, à son mauvais penchant, il doit se mettre à sa portée pour lui faire comprendre l'importance d'accomplir les commandements divins. Il y a un moment dans la vie d'un Juif, quand il révèle la force de l'essence de l'âme, où il n'a plus besoin d'avoir recours à cela. Il n'a plus besoin d'avoir à se battre, d'avoir à s'investir, à raisonner son mauvais penchant pour accomplir la Torah de Dieu. Puisque le mal lui-même est transformé à ce moment-là. Quand l'essence de l'âme juive, elle illumine son corps, alors un Juif, il va agir au-delà de la raison, au-delà de ce monde, il va révéler le lien qui unit son âme à Dieu, sans qu'il n'ait besoin de faire la guerre contre son mauvais penchant, il va être libéré. Ça, c'est le sujet de Pada v'shalom nafshi, et on peut comparer donc ce sujet-là au Shabbat Agadol, puisque Shabbat Agadol, par rapport à cette histoire, on voit que c'est un moment où les peuples juifs, il est libéré de l'emprise du mal, sans même qu'il n'ait besoin de faire la guerre contre le mal lui-même. Il y a une histoire qu'on peut raconter ici, une histoire du Rabbi, qui illustre parfaitement et qui reprend un des points essentiels du Dvar Malchut sur ce Shabbat Agadol. On raconte que quand le Rabbi habitait à Paris, il avait pour habitude d'aller dans un petit endroit où prendre son thé. Il y avait un restaurateur juif qui vivait là-bas et qui le recevait tous les jours. Et ce restaurateur, quand il voyait le rabbi arriver, il était impressionné par sa distinction, par son raffinement. Il était toujours impressionné par tous ses gestes, par sa façon d'être. Il ne connaissait pas le rabbi, il ne savait pas qui il était, mais il avait l'habitude de lui servir un verre de thé tous les jours quand le rabbi venait un petit instant comme ça s'asseoir et boire quelque chose et étudier la Torah et méditer à tous ces sujets de la Torah. Pendant ce moment privilégié, donc, le restaurateur, il a pu se rendre compte de la grandeur du rabbi sans même le connaître. Et après des années, quand le rabbi a décidé de partir, de quitter la France pour aller vivre aux États-Unis, il est allé voir ce restaurateur et il lui a dit, voilà, qu'il allait partir et il voulait le remercier pour ses attentions à son égard. Et il l'a remercié, donc il lui a dit au revoir. Et le restaurateur a demandé au rabbi, il lui a dit, « Mais monsieur, qui êtes-vous ? » Il lui a demandé, mais il voulait en savoir un peu plus. Il était tellement impressionné par la personnalité de cet homme, il avait senti déjà toute sa grandeur simplement par le fait de le voir s'asseoir et de boire sa tasse de thé. Il s'était rendu compte déjà de sa grandeur, de son raffinement. Il avait été fortement impressionné et lui a demandé « Mais qui êtes-vous » Alors le rabbi l'a regardé avec un sourire et lui a répondu « Un jour vous saurez qui je suis ». et le rabbi est parti, et il l'a laissé là, donc, et les années ont passé, et le rabbi vivait donc à Brooklyn, à Crown Heights, il avait déjà pris la tête de tout le mouvement chassidique, il était le rabbi de Lubavitch, et cet homme-là, ce restaurateur-là, bien des années après, il était dans le même quartier, donc, là où se trouve la maison du rabbi, et il a vu des chassidim qui étaient en train de marcher précipitamment. Il leur a demandé où allez-vous? Alors les chassidim lui ont répondu qu'ils allaient à un farbringen du rabbi. Et ils lui ont expliqué ce que c'était, et cet homme-là a voulu voir. Il a eu le besoin de se rendre aussi, lui aussi, à la maison du rabbi pour assister à ce farbringen. Quand il est rentré, donc, dans le 770, il a vu comme ça cette foule assemblée autour du rabbi. Le rabbi était en train de parler. Il a entendu les nigunim. Il a assisté à ce farbringen. Et quand il a vu le visage du rabbi, il s'est rappelé, il s'est dit que ce visage lui inspirait quelque chose, qu'il avait déjà vu cet homme-là quelque part. À la fin du farbringen, le rabbi a regardé cet homme-là et lui a demandé de s'approcher. Quand il s'est approché, le rabbi l'a regardé. Et le rabbi lui a demandé à cet homme-là, à ce restaurateur, il lui a dit, alors, maintenant, vous savez qui je suis? Donc, à ce moment-là, l'homme s'est rappelé que celui qu'il avait en face de lui, le rabbi de Lubavitch, c'était ce jeune homme qui venait dans son petit restaurant pour boire sa tasse de thé bien des années auparavant. Alors, cette histoire-là, peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pourquoi on la rapporte ici aujourd'hui? C'est pour dire que, on voit très bien ici, dans cette histoire, la qualité du rabbi de se mettre à la portée de chaque homme. C'est-à-dire que le restaurateur, quand il a reçu le rabbi et qu'il a vu le rabbi s'asseoir à table et qu'il a vu se comporter, il a vu un homme comme un autre homme qui venait boire une tasse de thé, qui venait s'asseoir pendant un moment dans son petit restaurant. Et il a vu donc un homme comme il pouvait en voir tous les jours. Seulement, il a ressenti à travers des gestes simples, à travers la personne du rabbi, une grandeur qu'il ne savait pas définir vraiment, la grandeur du rabbi. Finalement, quand il est allé au 770, bien des années après, il a pu se rendre compte vraiment, il n'avait plus devant lui cet homme qui venait à son restaurant, il a vu devant lui le rabbi de Lubavitch, et à ce moment-là, c'était toute l'ampleur, toute la grandeur de la lumière du rabbi qui lui est apparue. Cette histoire-là, elle nous rappelle un enseignement du Rabbi Rachab quand il explique que la différence qui existe entre le nom d'Elohim et le nom d'Avayé. On voit que le nom d'Elohim, c'est la lumière de Dieu qui s'habille dans ce monde, alors que la lumière d'Avayé, c'est la lumière de Dieu qui est liée à l'essence de Dieu et qui ne s'habille pas dans ce monde. Cette différence entre ces deux lumières, c'est la lumière qui existe. C'est la différence qui existe entre la lumière de Mémalé et la lumière d'Orsovev. La lumière de Mémalé, c'est la lumière qui s'habille dans le monde, à l'image du Shem Elohim. Et la lumière d'Orsovev, c'est la lumière qui ne s'habille pas dans le monde, à l'image de l'Orsovev. Donc on voit ici qu'il y a une différence évidente entre les deux. Seulement, le Rabbi Rachab, il met le point sur le fait qu'à partir de la lumière d'Elohim, on peut déjà se rendre compte, on peut déjà ressentir la lumière d'Avayé. Il explique cela en disant que quand un rav il raconte une histoire, comme quand on entend une histoire du Baal Shem Tov, on voit que c'est une lumière divine qui s'habille dans le monde. On peut comprendre une histoire du Baal Shem Tov parce qu'elle raconte une histoire qui nous touche, une histoire qu'on peut comprendre, qu'on peut ressentir. Comme par exemple quand on voit le Baal Shem Tov lui-même avec ses chassidim qui se rendent dans la maison d'un pauvre au fin fond d'une forêt et puis qui rentre dans la maison de ce pauvre et puis qui illumine sa maison. Derrière cet exemple-là, derrière cette histoire qui est comme un exemple, à l'exemple du Shem Elohim, on peut déjà deviner tout le symbolisme, tout ce que cette histoire elle va cacher de très profond, puisqu'elle cache quelque chose de très profond. Ce qu'elle cache, en fait, c'est cette lumière d'Orsovev qui est au-delà des mondes et qui va descendre et s'habiller, qui va s'unir avec une lumière qui s'habille dans le monde. Cette différence entre ces deux lumières, elle s'exprime par les deux qualités de l'âme, la qualité de l'âme qui s'habille dans le corps, les forces de l'âme comme l'intellect, les sentiments et l'action, et ce qui est au-delà de cette partie, c'est la partie de l'âme qui s'habille pas dans le corps, c'est l'essence de l'âme. quand on parle de Pada Vishalom Nafshi, on explique en fait que c'est cette force de l'essence de l'âme, elle a été libérée et elle va s'investir, elle va descendre très bas puisqu'elle va éclairer la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Elle va éclairer les endroits les plus obscurs. Ça représente la délivrance dans le concept chassidique. Sortir d'Égypte, c'est aussi dévoiler cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Alors maintenant, pour dévoiler cette grande lumière de manière à ce qu'elle descende dans le corps et qu'elle y reste, c'est-à-dire de manière fixe, non pas de manière provisoire, alors on a besoin du rabbi. Le rabbi lui-même, il représente l'intermédiaire entre le saint béni soit-il et les enfants d'Israël. C'est le point qui est donné ici dans le Devar Malchut. Le rabbi parle dans ce Devar Malchut de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, dans tout l'enseignement de ce Devar Malchut, on pourrait dire que le rabbi il parle de lui-même, puisqu'il est lui-même le Moshe Rabbeinu de notre génération. L'intermédiaire entre l'Éternel et l'Assemblée d'Israël, elle s'exprime par l'union entre le Shem Ma et le Shem Ban, qui sont deux noms qui désignent la force divine qui s'habille dans un nom divin. Le Shem Ban, il représente le corps, alors que le Shem Ma, il représente l'âme. Ce sujet-là, il est développé dans un Dvar Malchut, et par le Rabbi, quand il explique que le Shem Ma, il représente Yitzhak, et le Shem Ban, il représente Rivka. Le mariage entre Rivka et Yitzhak, ça représente l'union entre ce qui est totalement divin et ce qui est matériel, le corps. Cette union-là, elle s'exprime aussi par le fait que le Machar lui-même, il représente l'union entre ces deux noms divins, entre le Shem Ma et le Shem Ban. Pourquoi ? Parce que par le fait que c'est le Machar, c'est un être de chair et de sang, alors on comprend que ça, c'est le lien qu'il a avec le Shem Ban. Mais le Machar lui-même aussi, il possède cette dimension divine. Il est comme le saint béni soit-il, parce qu'il est un envoyé de Dieu. Et comme on dit dans la halakha, celui qui est envoyé par Dieu, il est comme Dieu, puisque le chaliar lui-même, il va être à la place de celui qui l'envoie. Il est comme celui qui l'envoie. Donc on voit que le machiar lui-même aussi, il est l'intermédiaire entre le saint béni soit-il et l'assemblée d'Israël, à l'exemple de Moshe. La différence entre Machiar et Moshe, c'est que Machiar, il va dévoiler la partie profonde de la Torah, il va enseigner la partie profonde de la Torah à Moshe. Et c'est pour cela qu'il représente vraiment l'union du divin avec ce monde matériel à un niveau supérieur, et ça c'est à l'exemple de Pada Veshalom Nafshi, puisqu'il va libérer l'essence de l'âme juive de tous les enfants d'Israël. Dans le Dvar Malchut, le rabbi va expliquer donc cette qualité de Moshe, d'être l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël. Il va l'illustrer par la lettre Kouf et par la lettre Tzadik. La lettre Tzadik, on l'écrit Tzadi, on la décompose en disant Tzadi, et parfois on ajoute un Kouf, on l'écrit Tzadik. Quand le Tzadi, ça représente mon côté, si on le traduit littéralement. Donc ça représente le côté de la Kdusha. Et quand on ajoute un kouf, le kouf lui-même, il a un pied qui descend vers le bas, il est semblable à la lettre E en fait. La seule différence qu'il a avec la lettre E, c'est le pied gauche. Le pied gauche, il va descendre vers le bas. Là-dessus, le Rabbi Rachab, il explique que le pied gauche qui descend vers le bas, ça fait référence à la Sefira de Malchut. C'est quoi la Sefira de Malchut? C'est le souffle divin qui porte les mondes, qui crée les mondes à partir du néant. C'est ce qui vivifie toute la création. Et ce souffle-là, il descend dans les mondes, il descend jusque dans notre monde, et il explique, le Rabbi Rachab, qu'il a une répulsion à descendre dans notre monde, puisque dans notre monde, la possibilité, le choix est donné à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Donc c'est-à-dire que c'est un monde qui est rempli de clipotes, comme c'est exprimé dans le livre du Tanya, c'est un monde où le choix est donné à l'homme, donc l'homme, Dieu préserve, il peut faire descendre ce souffle divin, il peut s'en servir et l'employer à des choses qui sont de l'autre côté de la Kedusha. Donc la lettre Tzadi, elle représente ces deux côtés finalement, le côté de la sainteté et le côté de ce qui est l'autre côté de la sainte, l'autre côté, c'est-à-dire le côté des clipotes, le côté de la citra achara. Le choix est donné à l'homme, ça veut dire qu'il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour employer cette force, le souffle divin, la vitalité qui l'anime à chaque instant, et la faire, et s'en servir uniquement pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'est-à-dire pour utiliser cette vitalité et s'en servir dans l'accomplissement des commandements divins, dans l'étude de la Torah, dans le fait de donner la tzedaka. Donc il va attirer toute cette vitalité dans la matière de ce monde, il va renverser la nature, puisque la nature elle reçoit sa vitalité de Klipa Noga, mais il va faire en sorte que la nature et lui-même reçoivent leur vitalité que du côté de la Kedusha. Donc la lettre Kouf est représente, il exprime par un verset, on dit que ses pieds descendent dans la mort. Ses pieds descendent dans l'obscurité, c'est la barre du Kouf, le pied du Kouf qui descend vers le bas, qui descend vers le côté, vers l'autre côté de la sainteté, vers un monde de clipotes, vers un monde obscur. Et ses pieds qui descendent vers la mort, justement, on doit renverser la situation, on doit faire basculer d'un côté vers l'autre côté de la Kedusha pour parvenir à faire de nous-mêmes et faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Alors on peut réussir. On peut agir, on peut faire en sorte, comme on l'a dit au départ, avec l'histoire des Égyptiens, quand le Shabbat Hagadol, c'est lié avec la délivrance, parce que la délivrance, c'est le fait de réveiller la force de l'essence de notre âme. Et ça, déjà, dans le Dvar Malchut précédent de la Parasha Vaikra, le Rabbi a expliqué que c'est adopter une attitude miraculeuse. Le mois de Nissan, il est lié avec les miracles, et là-dessus, le Rabbi emploie l'expression Nissé Nissim, les miracles des miracles. Les miracles des miracles, on pourrait expliquer ici que le miracle lui-même représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et les miracles des miracles représentent la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et qui agit dans le corps lui-même, dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est ça, Nissé Nissim, c'est réveiller, pour reprendre l'expression du Zohar, réveiller l'âme de l'âme. L'âme de l'âme, Nissé Nissim, c'est réveiller la force de l'essence de l'âme, afin qu'elle illumine notre intellect, qu'elle illumine nos sentiments, qu'elle illumine nos actes. C'est cela, avoir une attitude miraculeuse pendant le mois de Nissan. Et c'est de cette manière-là qu'on peut être libéré, de Padav et Shalom Nafshi, sans même avoir besoin de faire la guerre contre notre mauvais penchant. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi illustre aussi ses enseignements par la prière de Moshe, le Tehilim 90, donc le Tehilim, la lettre tzaddik. La prière de Moshe, ça désigne les Arba Amot du Rabbi, puisque le fait de se trouver dans les quatre coudées du Rabbi, ça réveille l'essence de notre âme. Et donc ça va réveiller, ça va nous unir à la prière de Moshe. Moshe, il est uni lui-même à Dieu, et ce lien-là qui l'unit à Dieu, il va nous en faire profiter par le fait qu'on se trouve dans ces quatre coudées. Se trouver dans les quatre coudées, c'est atteindre le niveau de la tefila de Moshe. C'est atteindre le niveau où on va parvenir à lutter contre notre mauvais côté et à le transformer, à transformer l'obscurité en lumière. Là-dessus, il y a un point qui est très important, puisque dans le Dvar Malchut, le Rabbi explique que la force de Moshe, elle est évidemment au-delà du monde, elle est au-delà des forces de l'âme, elle a une force qui est infinie, elle est divine, elle est totalement divine, mais le point le plus important que le Rabbi nous donne ici, c'est qu'on doit attirer ce point-là parce qu'il a la force de descendre et de résider de manière fixe. C'est ça le point qui est le plus important. De manière fixe, ça désigne le Emet. Le Emet, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc le Emet lui-même, quand on parvient à le révéler en nous-mêmes, alors ça n'a pas de fin. Ça, le terme que le Rabbi emploie, c'est gviout. C'est attirer cette lumière qui est infinie de manière fixe en nous-mêmes. À l'exemple de l'arche, on voit que l'arche, elle possède des mesures, on pouvait la mesurer, mais quand elle est placée dans le Kodesh HaKodeshim, elle ne prend plus de place. Donc c'est ça l'union, le Ish Elohim. Le Rabbi insiste dans le Dvar Malchut, il définit Moshe par ces termes-là, Ish Elohim, pour dire que d'un côté, Moshe, il possède, c'est un être de chair et de sang, mais en même temps, il a une dimension qui dépasse totalement les limites de ce monde. Donc la sortie d'Égypte désigne cette union entre l'illimité et les limites de ce monde, entre la force de l'essence de l'âme et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. De faire en sorte qu'on va dévoiler les niveaux les plus hauts, mais de manière fixe en nous-mêmes. Ce sujet-là, le Rabbi le développe aussi dans le Mahamar Ve'atat Tetzavé. Il explique que Katit le Maor, c'est dévoiler la partie de l'âme la plus élevée, de manière à ce qu'elle se révèle de manière constante en nous. Bien que c'est quelque chose qui ne peut pas se passer aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore parvenu à la pureté totale du corps, on peut imaginer que c'est ce qui va se produire, Bezrat Hashem Bekarov, prochainement avec la venue du Mashiach, puisque l'essence divine, elle va demeurer dans ce monde matériel et en nous-mêmes de manière fixe. On va parvenir à une vérité éternelle, à un Shabbat éternel, Shabbat Agadol, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevorach.